Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Ex, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Qui peut mieux parler d'amour que quelqu'un qui en a fait une œuvre ? Bérangère Krief nous raconte ses histoires d'amour extraordinaires, des relations toxiques, un mariage annulé au dernier moment, des histoires dignes de comédies romantiques avec un seul et unique objectif : aimer et vivre.
Mes souvenirs d'enfance, c'est un peu Walt Disney. J'ai une famille très soudée. Enfin, il y a mes grands-parents, ma mère a une sœur jumelle et une grande sœur. Il y a les mamans, les papas. On part en Espagne en vacances tous ensemble. Mon grand-père a acheté une maison pour qu'on puisse tous partir en vacances. Les souvenirs d'été, c'est tous ensemble entassés dans la maison, la chambre des enfants, mes cousins, on est 7. Donc 7 enfants, 8 adultes. C'est vraiment des souvenirs très collectifs, très joyeux. Ma mère, j'ai toujours senti qu'elle était très heureuse de m'avoir eue. J'ai un petit frère, on s'entend très bien. Du côté de mon père, il y a aussi beaucoup de valeurs familiales qui sont transmises. Mes grands-parents, du côté de mon père, ont créé une entreprise de feuilletés surgelés depuis 70 ans. Donc cette entreprise lie mon père, mes grands-parents, les sœurs de mon père. Parfois, il y a des cousins à moi qui vont travailler. Alors, c'est à la fois génial parce que du coup, t'as une grande équipe. C'est vraiment des clans, en fait. Donc, c'est une enfance assez joyeuse. Alors, dans le spectacle, je le dis, c'est une copine à moi, Delphine, qui m'avait dit ça et ça m'avait fait rire. Elle me dit, mais toi, tes parents, c'est les Walsh. C'est les parents de Brandon et Brenda dans la série Beverly Hills. Donc, les Walsh, en fait, voilà, ils sont beaux, ils sont assez jeunes, ils m'ont eu jeune. Donc, déjà, j'ai jamais eu honte d'eux. Mes parents, ils sont à mes anniversaires. Mon père est trop sympa avec mes potes. J'ai souvenir de lui qui essaye le scooter de mon pote quand j'avais 15 ans. Et ils sont au taquet, quoi. Ma mère est là, présente. Elle écoute les histoires de mes copines. Donc, c'est vraiment des parents présents, aimants, chaleureux. Et puis, qui sont très amoureux, leur histoire. Voilà, ils se connaissent depuis 16 ans. Ils se sont mariés à 21 ans. Voilà, ils m'ont eu à 25, mon frère à 28. Ils ont toujours des projets, ils avancent toujours en fait. Alors ils s'engueulent assez pour que je croie pas que ce soit complètement parfait. Et surtout, dans ma famille, tout le monde est en couple. Il y a très très peu de divorces. Les femmes qui sont seules, c'est parce que leur mari est mort et qu'elles se sont jamais recasées. Les gens ne se séparent pas. Et surtout, des fois j'observe, souvent ça m'est arrivé, puisque j'étais souvent seule à Noël, j'étais l'élément célibataire de la famille. Et en fait, je les voyais tous et je me dis, il y a quand même beaucoup d'amour. Parce que tu te dis, ça pourrait être, on reste ensemble et tout. Mais quand même, ils te montrent qu'il y a de la tendresse, il y a de la complicité. C'est vraiment des équipes qui fonctionnent, mais vraiment à deux, quoi. Mais je dirais que ça fonctionne aussi beaucoup sur la peur d'être seule. C'est-à-dire qu'on s'organise bien pour que jamais on ne soit seul. Ça transpire l'amour et c'est très joyeux. Je sais que très rapidement, dans ma vie, assez jeune, j'ai des émois amoureux. Mais il se passe rien, en fait. Moi, c'est tout dans ma tête. Je suis une amoureuse dans ma tête. Je suis comme dans Amélie Poulain, quoi. Donc, je suis là, je me fais des histoires et tout. À l'école, je suis pas très fifi. Je les aime bien, les garçons. Je trouve ça fun. C'est une énergie que j'aime bien. Et puis, je vois pas forcément ceux qui sont amoureux de moi. J'étais assez indépendante, en fait. J'ai un souvenir de faire ma vie, d'être contente d'avoir des émois, mais de savoir où je vais. J'ai des prétendants, mais moi, je suis pas avec quelqu'un. En fait, ado, je me rends compte, et d'ailleurs, je me reconnecte à ça un peu aujourd'hui, c'est qu'ado, je suis toujours cette amoureuse de l'amour. En fait, j'ai plein d'amoureux. C'est-à-dire que j'ai plein de mecs que j'aime bien. Dans mon journal intime, ça s'appelle, il s'appelle la liste des victimes. Le vocabulaire est pas hyper bien choisi. Je croisais l'un, j'allais voir l'autre, mais il ne se passe rien. J'embrasse personne. La première fois que j'ai embrassé un garçon, j'étais en cinquième. C'était un mec que j'avais rencontré à une boum. On avait dansé, tu sais, il avait sa chemise blanche un peu humide, là, tu vois, sur le slow. Déjà, moi, c'était super, déjà, ça, c'était génial. Et après, il m'avait demandé si on pouvait sortir ensemble. Et je sais que j'avais une discussion avec ma mère et ma tante. Elle m'avait dit, mais alors, vous faites comment? Il dit, tu veux sortir avec moi? Et tu te dis, ok, on se met où? Et j'ai dit, oui, c'est vrai qu'ils se roulent, enfin, les gens se roulent des pelles au milieu du couloir. Suivant le moment où ils te posent la question, tu te retrouves à rouler une pelle. Et moi, dans mon estime de moi, je dis, je ne veux pas faire ça, en fait. Je veux pas rouler une pelle avec le flux de gens qui sort autour de moi. Ce n'est pas possible, c'est trop, mais inconsciemment, je mets pas de mots dessus, mais je sens que c'est juste. Et donc, ce mec, Julien, me demande si je veux sortir avec lui. Je dis oui et je me casse en courant. Et donc, après, je le revois. Je suis hyper timide et tout. Et on finit par s'embrasser. Et je trouve ça d'une violence intime. Je me dis, mais c'est beaucoup trop, en fait. Cette langue qui rentre si fort dans ma bouche. Et j'ai le souvenir d'un truc, mais genre pas du tout agréable. Et de me dire, pourquoi on fait ça, en fait? Donc, je veux plus. En fait, je suis là, non, en fait, ça n'arrivera pas. Je crois qu'on sort un peu ensemble, mais très rapidement, je lui dis que c'est terminé. Et après, je suis un peu genre échaudée. Je cours pas après le fait de rouler des pelles à tout va. Alors, je crée le principe du dating à la cantine. En fait, le mec me dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? Je lui dis oui, mais allons déjeuner ensemble à la cantine. Je lui parle, en fait. Mais tout ça, maintenant, j'ai le recul, mais c'est naturel. Je me dis, bah, je le connais pas. Puis souvent, je dis, non, merci. Je suis dans un truc, bah non, j'ai pas eu de feeling, donc j'y vais pas. Après, j'étais amoureuse 2 ans d'un mec qui n'a jamais voulu de moi. Et donc, pendant 2 ans, il se passe rien. Et il y a un mec qui va finir par me demander de sortir avec lui. Alors lui, il est un peu plus mature, je crois qu'il a 1 an de plus que moi. Et il insiste beaucoup. Il est un peu audacieux. Et donc, il insiste. Et à un moment, je finis par me dire, bah, t'es comme une vieille, je me dis, vas-y, je suis célibataire depuis la 5e. Peut-être c'est le moment où je suis en 3e. Peut-être faut que je vive des trucs, quoi. Et donc, je lui dis, ok. Et j'avais noté 1 semaine dans mon agenda. Je m'étais dit, je sors 1 semaine avec lui, la meuf. Tu vois, très organisée. Ça a duré 1 an et demi. Ça a été un enfer. Un enfer dans le sens où le mec est complètement possessif. Un peu tordu. Un jour, je rentre manger chez moi pendant que il est à la cantine avec ma meilleure copine. Il se chauffe un peu. Il va me laisser à un moment donné, puis sortir avec une autre meuf, puis revenir me chercher. Je commence ma vie amoureuse avec un gars tordu, quoi. Mais en même temps, comme je suis assez forte et assez droite dans mes bottes, je suis pas heurtée vraiment. Après, j'ai engendré d'autres relations compliquées comme ça. En fait, pour moi, c'était normal d'être intrusive. Comme ma mère est très aimante, si tu veux, t'as quelqu'un, j'avais quand même quelqu'un très près de moi. Donc du coup, ce mec-là, il te témoigne beaucoup d'affection, en fait. Tu te sens valorisée, mais c'est une mauvaise base, en fait. Donc j'ai cette histoire-là pendant 1 an et demi. Après, ça se termine et je sors immédiatement avec un autre mec, beaucoup plus doux et gentil, pendant 3 ans. Moi, je fais ma scolarité normale, je fais du théâtre. Il y a ce truc de je veux faire du théâtre, mais... Putain, je suis en campagne de Lyon, tu te dis, bon, comment on fait, Paris, enfin, dans un univers familial où personne ne l'a jamais fait, avec ta mère qui flippe si tu fais du vélo dehors, donc si tu veux, t'as pas un truc où tu te dis, ouais, écoute, je me barre. Mais quand même, je vais partir assez vite, à 21 ans, parce que je sors avec un mec qui est comédien, que j'ai rencontré à Lyon, qui va être ma relation toxique numéro 2, du coup. Et je pars avec lui, je prends l'élan de me dire, en fait, lui, il habite déjà là-bas, et je me dis, j'y vais. Et je quitte mon cocon pour aller à Paris, faire des cours de théâtre et dire « Ok, je vais devenir comédienne. » Alors, je connaissais pas, j'avais été quelques fois en séjour avec mon meilleur ami qui est aujourd'hui le metteur en scène de mon spectacle. On avait 19 ans et on se disait, on rêvait de voir des tournages. Enfin, pour nous, c'était Paris, c'était là où tout se passe. Puis après, quand je suis arrivée, j'ai déchanté. Je me dis, oula, c'était immense, je me sentais perdue. J'étais avec ce mec qui me calculait pas et qui était toxique dans le sens un coup noir, un coup blanc. Donc, j'étais très seule. Enfin, c'est une solitude à deux. Moi, j'avais jamais été seule, en fait. Dans ma famille, on n'est pas seule. Ma mère a une sœur jumelle, on est avec les cousins. Donc je subis ça un peu, mais en même temps ça m'a endurcie. Parce que c'était très très dur pour moi, mais j'ai souvenir de ces années-là hyper intenses, de sauter dans le vide, de prendre le métro toute seule, de sortir, d'aller à la rencontre de gens. T'as quelqu'un qui te dit il y a une soirée, tu te dis bah ok j'y vais, tu sais pas, tout fait peur en fait. Après ça a été compliqué parce que ça a duré 4 ans que le gars me calculait pas des endroits. Enfin je sais pas comment dire, c'était dur, il était en colère, il était sombre. Moi, j'étais là avec ma petite tête. Je pense que j'avais tellement de lumière que je voulais l'éclairer, lui dire « La vie, c'est super, mais tu verras, c'est génial. » Moi, je venais de mon Walt Disney, mes parents, les Walsh, ma famille. J'arrivais à Paris avec tout ce bagage. Et j'ai voulu le sauver. Mais bon, j'étais très accro. Hein. Mais c'était très rude. Très, très rude. Et je crois que l'année de mes 25 ans, j'ai une très bonne amie qui s'appelle Lisa, qui est ma petite fée que j'ai rencontrée dans un cours de théâtre. Et un jour, elle me dit, elle me secoue en fait. Elle le voit avec moi et tout. Elle me dit, mais Bérangère, il n'est pas gentil avec toi. Des mecs gentils, il y en a plein. Tu ne peux pas rester comme ça. Elle me secoue et je disais, non mais tu sais, en ce moment, il travaille. Et elle me secoue, elle m'offre pour mes 25 ans un livre qui s'appelle « Je ne souffrirai plus par amour ». Et elle me sort de ça un peu. Elle me dit, mais la réalité, c'est ça. Et t'es avec un gars qui n'est pas gentil avec toi. Et je la remercierai toujours parce que sans ce recul-là, t'es dans ton truc et tu te dis, bon, oui, il a été sympa une fois dans la semaine, donc tu te dis, non, mais ça s'est bien passé mardi. Ouais, enfin bon, ça c'est 2 mois qui étaient chiants. Mon vrai déclic, mes 25 ans. Je sais que je dis à ma mère, au flunch du Carrefour où on va tout le temps, j'ai un souvenir d'un déjeuner avec elle, où je lui dis, tu sais, maman, je ne serai pas comme toi. Si à 30 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, s'il te plaît, ne me regarde pas avec les yeux de la pitié. Je sens que je vais pas faire comme ça. Elle me dit, mais on t'a rien demandé. C'est une pression que je me mets moi, mais il y a quand même un truc de c'est normal ou c'est pas normal. Il y a quand même un truc de bon, dans la vie, on se marie, on fait des enfants. Et je sens bien que c'est un peu éraillé, j'y suis pas, quoi. Donc 25 ans, ma mère m'a eu à 25 ans, elle était mariée depuis 4 ans. Donc tu te projettes et tu dis, bah là, je vais me séparer d'un mec, en fait. C'est ça qui va arriver. Et finalement, je m'en vais pas. Je vais revoir le mec du collège qui m'a pas calculé pendant 2 ans, là. Sur Facebook. Retrouvailles. On se retrouve sur Facebook et tout. Le mec est toujours à Lyon. Et là, je le vois. Et en fait, c'est, je venais tellement de vivre l'enfer, loin, la terre inconnue, le sombre, Paris, l'immensité, que le gars habite à Lyon, connaît mon collège, me connaît de moi quand j'étais petite. Je prends vraiment le truc le plus sécure de tout l'univers. Et je vais sortir avec ce mec pendant presque 4 ans. Ça me crée une sécurité. Je rentre à Lyon, je retrouve celle que j'étais. Et en même temps, à Paris, je commence à faire mon spectacle. Je commence à être dans les cafés-théâtres et à toucher du doigt ce que je veux faire vraiment. Et en fait, lui, il me laisse complètement indépendant. Il n'est pas jaloux. Et en fait, pendant qu'on sort ensemble, je deviens la meuf de Bref. Bref, c'est la série créée par Kian Kojandi, Navo, Bruno Muschio, sur Canal+, qui a été un succès. Voilà, c'était des petites pastilles très courtes qui se partageaient, donc le succès a été immédiat et immense. Et donc, je me retrouve dans une notoriété de ouf avec mon mec du collège. Donc, lui, il se retrouve avec le mec de... c'est pas agréable pour lui, dans sa virilité, d'être à côté, on te calcule pas... fait des photos et nos chemins se séparent tout doucement parce que moi en fait je continue ma route, lui il a pas envie de venir à Paris, donc à un moment donné on avance plus quoi. Et à 28 ans je vais rencontrer un autre garçon. Je me suis demandé à un moment donné, quand j'ai vécu une grosse rupture là récemment, je me disais, comment tu fais pour te remettre avec quelqu'un, tu sais, là j'ai vraiment un truc de manque de confiance, tu te dis attends, on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais moi je repartais quasiment instantanément, parce que mon analyse, c'est que je ne pars pas au moment où je dois partir. C'est-à-dire que la porte se referme, il y a une désillusion qui se fait, il y a le truc de trop, mais je pars pas. Et j'avais pas le courage d'être seule. Et ça, j'ai mis longtemps à me l'avouer. Et donc, je repartais dans mon autre histoire. je rencontre un nouveau garçon à Paris, comédien, qui a une notoriété aussi. C'est quelqu'un qui m'apprend aussi ce que c'est d'être connu, parce que je le vivais assez mal, ça me perturbait et tout. J'ai commencé mon spectacle aussi, mon One Woman Show, qui a été un tournant parce que pendant longtemps, je veux être comédienne. Je fais des castings, machin, mais vraiment la scène, le théâtre, c'est vraiment ce qui m'anime. Mais le One Man m'appelle depuis longtemps, depuis mes 10 ans, mais ça me terrifie. Donc du coup, je viens de créer mon spectacle et je rencontre ce garçon. Je me souviens que quand je le rencontre, il y a une facilité, quelque chose de très familial qui se fait, dans le sens où c'est très joyeux, on joue ensemble dans une vidéo et tout. Et il est très drôle, très sympa, etc. Et on sort ensemble. C'est assez fort. On est un peu étonnés de ce qui se passe et c'est très romantique, quoi. Et en fait, au bout de un an, on habite ensemble et le jour de mes un an, il me demande en mariage sur une barque à Central Park. C'est l'année de mes 30 ans. Il m'a fait une fête surprise incroyable. Le cadeau, c'est New York. Les billets d'avion sont pris. On part en week-end à New York, enfin 4-5 jours. Et il me demande le premier jour en mariage sur une... Alors, hyper romantique. Je vais ouvrir la parenthèse de ma part de comédie romantique dans la vie. En fait, la comédie romantique et toutes les histoires que je me crée dans ma tête m'accompagnent depuis le début. Et avec le temps, je l'ai analysé. J'en parle aussi beaucoup dans mon spectacle parce que je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression de jamais avoir demandé ça à quelqu'un. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça. Le mec du lycée, il m'offre une bague à mon anniversaire. J'ai des copines, elles me disent « Mais moi, on m'offre jamais de bague. » Moi, j'ai une bague. J'ai des trucs un peu, des bijoux. New York, là, ce gars-là, c'est le troisième mec qui m'offre ce voyage. Mais personne ne m'a emmené. On m'a dit à mon anniversaire « Je vais t'emmener à New York. » Mais c'est la projection romantique de Carrie Bradshaw. Je n'ai jamais évoqué le fait, moi, de vouloir découvrir New York. Ce n'est pas mon rêve. Moi, je me sens bien où ? Dans les Landes. J'ai besoin de la forêt, j'ai besoin de la mer, mais je ne vibre pas New York, à aucun moment. Il m'avait offert une bague la semaine pour mon anniversaire, mais il m'avait dit « ouais, c'est une bague de fiançailles ». Mais moi, j'étais « ah oui, bon, c'est mignon, c'est une bague d'engagement, c'est touchant ». Mais je sentais pas vraiment qu'il allait le faire. Je suis surprise et en même temps, non. Je suis flattée, mais pas émue. Je suis flattée. Je me dis « trop stylé, trop stylé ». Lui aussi, je pense qu'il trouve ça trop stylé. Et en fait, j'organise un mariage. Mais sans... je sais pas, en fait, ce que je veux. J'ai jamais pensé à ce jour-là. J'ai jamais évoqué mon mariage dans ma tête en me disant, moi, quand je me marierai, ça n'existe pas dans ma tête. Et là, je suis un peu contente parce qu'en fait, moi, toutes mes cousines se marient. Chez mes grands-parents, sur le buffet de la salle à manger, t'as les photos de mes cousines devant la mairie, en robe de mariée, qui trône. C'est vraiment la réussite de la famille. Papy, il est là, il t'aide pour ta robe. C'est vraiment le truc, quoi. Et donc, d'un coup, je me dis, ah ben, moi aussi. Ça y est, je rentre dans le moule. Et donc, je suis contente, mais pas du tout prête à m'engager. On est très amoureux, mais en fait, on va pas au même endroit. Donc déjà, à un moment donné, ça commence un peu à se déliter. Il se dégonfle un peu, mais il est un peu lâche. Il arrive pas à parler, il arrive pas à dire ce qu'il ressent. En même temps, j'ai deux copines qui se marient en même temps que moi. Donc, je les vois bien, elles, qu'elles sont organisées, qu'il y a des problèmes, mais que le gars, on n'est pas en train de le tirer à main nue. Moi, déjà, ça me fait chier l'organisation. Alors, si je la fais toute seule, j'ai pas envie de la faire. Et je lui dis ça. Je lui dis, mec, on a peut-être pas envie de faire ça, en fait. Moi, je suis prête à me dire, on annule. En revanche, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Comment on se réengage dans autre chose? Peut-être que le mariage, ça nous fout le cafard, en fait. On va visiter les salles. Ça aussi, c'est un passage de mon spectacle. Par exemple, je vais choisir ma robe de mariée avec ma mère. On écume Paris. Déjà, rien ne me va. Je suis refoulée de pas mal de robes. Je sais même pas quelle robe je veux. Donc c'est une journée de shopping un peu chiante où tu trouves pas ce que t'es venu chercher. La dernière boutique, ah, on trouve, super. Mais c'est vraiment genre, allez, eh ben on a trouvé, on va manger un petit bout, non? Qu'est-ce que tu veux? Un Pokéball? C'est vraiment ça, quoi. J'ai pas d'émotion. Et après, je vais essayer une robe de mariée. Enfin, j'ai ma meilleure amie qui va essayer sa robe de mariée, qui me demande de venir. Et vraiment, elle sort de la cabine et elle me fait, je crois que c'est elle, voilà. Je m'attendais pas à ça, c'est une forme, mais je l'aime trop. Et on dit, c'est celle-là. Tu sais, vraiment, c'est la robe de ma vie, quoi. Moi, je me dis, mais merde, j'ai pas du tout ça avec ma robe, quoi. On a la date, on a le lieu, on a le DJ. J'ai choisi ma robe, on a goûté le traiteur, on voit nos parents visiter la salle qu'on a choisie, qui s'entendent hyper bien et tout. Et on est là, oh là là. On est à l'arrière de la voiture et on voit nos parents, les papas, les mamans. Et on est là, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on bug. Maintenant, je m'en rends compte. On devrait être heureux. parce qu'on sait qu'on n'est pas au bon endroit, au fond. Et à un moment donné, lui, il me dit « je veux pas d'enfant ». Je dis « bah là, on a un problème ». J'ai des séances de sophrologie régulièrement et tout, je raconte. Elle me dit « mais ne vous mariez pas, vous n'allez pas au même endroit. Vous ne construisez pas la même histoire ». Le fossé se creuse et puis surtout, je vois bien qu'on a été un peu... on a rêvé, on est dans la comédie romantique, tous les deux. J'ai un adversaire à ma taille et là, on déchante parce que la vraie vie, c'est nos parents, c'est la mairie, c'est des papiers, c'est chiant en fait. Donc si t'as pas la foi, on aurait dû faire une teuf. On est censé se marier 1 an et 3 mois après la demande. Et on annule 5 mois avant. Donc on a quand même toute l'organisation, nos potes qui se marient. Je lui dis, partons en voyage, on se fait un tatouage, j'en sais rien, mais engageons-nous autrement. À un moment, je me suis pris la tête, je lui dis, viens, on achète un lit. On s'achète un beau lit. Et il me dit, mais il avait pas envie. Et donc j'ai acheté ce lit toute seule. Mais tu vois, je voulais m'engager dans autre chose. Si c'est pas ça, on s'engage autrement. Mais on pouvait pas s'engager. Et ça se délite, et moi je décide, je lui dis, voilà, on annule. On annule, on envoie un « don't save the date » à notre famille, aux amis. C'est très humiliant parce que tout le monde était content pour nous. J'ai des potes qui me disent « mais t'étais très amoureuse, on te voyait hyper heureuse et tout ». Donc ils comprennent pas. Moi-même, à la fois je suis soulagée, mais en même temps je me prends l'humiliation sociale. Ma cousine devait se marier la même année. Il y avait un truc de « est-ce qu'elle se marie avant moi ?» machin. Ça a été tout un micmac pour finalement « je me marie pas ». À un moment, je déménage. J'ai souvenir à 32 ans de me dire, putain, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est le moment où tout le monde s'engage. Et la peur d'être seule et de se dire que tu vas pas rencontrer quelqu'un, que tu vas pas jamais avoir d'enfant. Retour à la case départ, je suis avec mon chat. Comme j'ai le cœur vraiment brisé, là, pour le coup, je suis pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre, à me remettre dans une histoire. Je suis vraiment seule et je vis ma dépendance affective. D'une autre manière, déjà pendant les premiers mois, je peux à peine regarder mes chaussures. Et le premier été arrive, et là, je suis célibataire. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 30 balais, c'est plus t'es avec tes parents, t'as des trucs un peu organisés. Là, c'est vraiment, qu'est-ce que tu vas faire de ton été? Et j'ai ma copine Lisa, toujours, qui me dit, moi, je fais un stage de développement personnel une semaine en Ardèche, reconnexion, je sais pas quoi. Et là, je me dis, ok, une semaine en Ardèche avec Lisa, ça me suffit, on part là-dessus. Je m'inscris, j'appelle le mec vite fait, mais je sais pas ce qu'on va faire. Et j'arrive à ce stage et j'arrive là-bas assez confiante parce que j'ai l'impression que je suis capable de parler assez facilement de ce qui m'arrive. Je mets des mots, je parle de relations toxiques, j'analyse assez bien ce qui se passe. Donc j'ai une espèce de figure un peu comme ça, très ok avec ce qui se passe. Donc on est, le stage, c'est un maître de stage, enfin un thérapeute avec sa femme. On est assis sur des tapis de yoga, on est 20, je connais personne à part Lisa et un couple d'amis. Et puis tu regardes les gens, tu te dis mais personne n'est comme moi en fait, je n'ai rien à voir avec ces gens. Et la première flèche que je me prends, c'est que je parle, je ne sais plus ce que j'ai posé comme question, mais un peu arrogante, en disant on est d'accord que quand il se passe ça, ça veut dire que le mec est toxique. Enfin tu vois, je dis un truc pour que le mec il me dise bien que je suis une grosse victime d'un mec toxique. Et le gars me dit « Et sinon, quand est-ce que tu vas arrêter de te comporter comme un objet ?» Et là, ça me fait vraiment une flèche. Je fais Et là, je me dis « Quoi ?» Et en même temps, je me dis « Bah ouais, quoi ?» Bah ouais, et c'est hyper flou parce que d'un coup, il parle à une personne qui est endormie en moi. C'est un concept un peu flou. Je dis « D'où je suis pas un objet, je suis indépendante, je suis libre, je fais mes trucs. » Et en fait, ça commence comme ça à me piquer. Et tout le long du stage... Je me reconnecte à moi, en fait. En fait, il y a des exercices, ça sert à rien de raconter, parce que en vérité, les exercices ont l'air débiles si je les raconte hors contexte, mais tout m'emmène vers moi. Prendre conscience que j'existe moi, en tant que moi, et que je suis pas très sympa avec moi-même, en fait. Si moi, je suis pas sympa avec moi, les gens ne seront pas sympas avec moi. Donc, je prends conscience un peu de ça, en filigrane, c'est des sensations, c'est ce que j'aime dans ces stages-là, c'est que tu es vraiment dans l'expérience humaine, en fait. D'un coup, tu vas montrer quelque chose de vulnérable. Enfin, moi, que j'osais pas montrer dans la vraie vie. Et d'un coup, le groupe est hyper OK. Et tu vois à quel point c'est un cadeau pour les autres et un cadeau pour toi. C'est-à-dire que d'un coup, cette facette de toi que tu détestes, c'est ta force. Mais ça a été un travail de longue haleine. Mais c'est une année quand même compliquée. Je suis très triste, en fait. Ça prend du temps. Et je mets longtemps à me remettre de ce truc-là, quand même. En fait, je me sens bien nulle part à Paris. Je viens de terminer mon spectacle. Ça fait 7-8 ans que je joue. J'ai toujours des dates. Là, le calendrier est vide sur les prochains mois. Et je sens qu'il faut que je parte, mais je sais même pas où. Et je suis pas bien aux soirées. J'ai envie de parler avec personne. Je suis vraiment irascible. Et je vais décider de partir en Australie parce qu'il y a une copine qui est en ce moment en Australie, qui poste des trucs sur Instagram. Ça a l'air cool. Elle me dit c'est sécure et tout. J'ai loué une voiture et tout. Je fais tout en voiture. Je me dis ok. Donc moi, avec ma mère qui flippe à tous les coins de rue, je me dis très bien. On part dans un pays safe. On part très loin et on fait en voiture et tout ça. Donc je fais ça et je me retrouve là-bas. Et là, ah bah là, il n'y a plus personne. Hein. Là, il n'y a pas de guide, il n'y a pas de mec, il n'y a pas de copine, il n'y a pas tes parents. D'un coup, tu es le guide du voyage et je ne l'ai jamais fait. Donc, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Alors, j'ai ma liste de toutes les choses à faire. Donc, je fais ça pendant 10 jours. Rien ne va. Il y a plein de trucs qui se passent. Il y a un moment où je veux partir en Nouvelle-Zélande, le billet d'avion, mais c'était une blague, j'arrive, ça va pas, faut que je change de billet. En fait, après, je reprends un billet, mais sur un site français, le mec me dit, bah non, c'est pas bon, faut reprendre un billet. J'ai pris 3 billets. Après, le mec, je reviens, il m'a pas donné le billet pour le bon endroit. Donc, je me dis, attends, mais l'avion va s'écraser, il y a un problème. Je finis par y aller. J'arrive là-bas, je peux plus retirer tout parce que ma carte est bloquée, j'ai pas de permis international parce que je me suis pas rencardée, donc je peux pas louer la voiture. Je me retrouve dans un hôtel à minuit, perdu, en train de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Je suis dans une ville que j'ai pas une bonne vibe. Et à ce moment-là, je suis que dans il faut. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est bien de faire? Qu'est-ce qu'on m'a dit de faire? Et tout le monde est le guide sauf moi. Et ça me pousse pendant 10 jours. Et à un moment, je suis dans une ville, vraiment, ça, rien ne va, la météo ne me convient pas. J'ai envie de chaleur, j'ai l'impression d'être en Bretagne. Je suis dans cette petite ville où j'ai pas réussi à prendre d'hôtel. Et j'arrive là-bas, et je veux pas dormir là. Mais je ne sais pas où aller, j'ai épuisé mes ressources, je connais pas. Ça fait 2-3 villes que je fais, j'en ai marre. Et donc là, j'appelle un ami. Il y a une nana sur Facebook, une spectatrice avec qui j'ai sympathisé depuis 2010, Pauline, qui est absolument adorable, qui vient me voir chaque année, qui m'avait parlé de sa rupture à l'époque. Et elle m'avait dit, j'ai mon pote Seb qui est en Nouvelle-Zélande, appelle-le, quoi qu'il arrive, il est vraiment sympa. Je me dis, bon là j'appelle Seb. Je dis, voilà, je suis Bérangère, c'est Pauline qui m'a donné ton numéro. Je ne sais pas où aller, j'ai envie de soleil et tout. Il me dit, ah ouais là, c'est vrai que tu vas pas avoir grand-chose. Il me dit, en revanche, moi demain je pars dans une maison au soleil, à la plage. Je pense qu'il va faire très beau, on va faire du surf et du paddle, je suis avec un ami. Si tu veux venir, rejoins-nous, il y a de la place pour toi. Et là, je me dis, mais tout mon être fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Le projet, c'est, t'es à Bruxelles et on te dit, écoute, viens à Bastia, demain. C'est vraiment ça, je suis dans l'île du Sud, il est au nord, il faut que je traverse l'île, il faut que je reprenne un avion, j'ai 3 heures de route, je reprends une voiture, enfin, je fais tout un périple. Et j'arrive là-bas, à 21h, j'ai fait 2 jours de voyage, j'en peux plus. Eux, ils sont au restaurant et moi, j'ai une séance Skype avec une thérapeute que je dois voir. Je leur dis, ouais, j'ai un truc, j'ai un call de boulot. Je vais pas leur dire, oui. Et donc, est-ce qu'il y a le wifi? Il me fait, oui, prends les clés. Donc, j'arrive dans une maison, toute seule, avec 2 mecs que j'ai jamais vus. Il y a une partie de moi, et notamment ma mère, qui dit, meuf, faut partir, en fait, faut pas rester. Mais tout mon être se dit, c'est cool, en fait. Et ces gars ont été tellement sympas. Mon voyage commence à ce moment-là. Je m'écoute, parce que mon intuition, elle est bonne sur ces mecs, et je me suis pas trompée. Et ils sont adorables, on est encore en contact aujourd'hui. Je les adore. En plus, c'est des mecs, vraiment, ils se retrouvent chaque année. Lui habitant en Nouvelle-Zélande, l'autre, il est en France. Ils me font une place, tu vois, dans leur petit truc de leur bromance, là. Et donc, je commence comme ça à me dire, OK, j'entends ce que je dois faire, et je traverse la peur. Et ça dure qu'un mois, hein. Mais moi, de là où je viens avec les Walsh et ma mère, c'était genre ouf, quoi. D'un coup, je rentre, j'ai des idées de spectacle, j'ai marché seule. Et je rentre un peu transformée, quoi. Alors que ça a duré qu'un mois, mais ça a été tellement intense. Quand je rentre, là, il y a plein de mes potes qui me disent « Mais faut qu'on se voit, faut qu'on déjeune ensemble, faut que tu me racontes ce voyage. » Pour moi, c'était extraordinaire, mais je sens que les gens autour de moi, mes connaissances et tout, se disent « C'était ouf, en fait, il faut qu'elle raconte. » Alors que j'ai posté 2 trucs sur Instagram, je faisais pas de story, j'ai pas alimenté dans l'énergie, les gens sentaient que c'était ouf. Et là, je me dis, en fait, soit je raconte ce voyage à une personne différente, à un déjeuner chaque jour, pendant 2 mois, soit je réunis ça et je fais un spectacle. Et là commence la création de mon nouveau spectacle. Il s'appelle Amour. C'est un spectacle que j'adore jouer. J'y ai mis tout ce que j'aimais. En fait, là, je me suis autorisée tout, comme dans mon voyage. J'ai poussé les barrières. Donc, je me suis autorisée à être drôle, mais à raconter mon histoire personnelle, à la raconter de manière vulnérable. Donc, je raconte l'annulation du mariage, je raconte le voyage en Australie, l'Ardèche. Je le raconte toujours avec humour, comme je le fais toujours. Mais on voyage à travers les émotions aussi que c'est la rupture, parce que c'est ça qui m'intéresse. Quand tu vas vraiment contacter un truc profond en toi, et c'est ça qui m'anime, et c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui ont vécu ça, ou de leur rappeler, ou quand tu sors et tu dis « Putain, mais en fait, je peux faire tellement de choses, j'ai les capacités, quoi. » Là, j'ai pas joué depuis longtemps, et j'ai rejoué, là, il y a quelques jours, une dernière date en Suisse, avant d'attaquer les dates à Marigny, en juillet. Et en fait, je me disais, putain, mais je l'aime ce spectacle. J'aime tout jouer. J'aime raconter cette histoire, mais de la visite des salles de mariage, la meuf qui nous fait visiter, qui est Martine, qui est complètement hystérique. T'as le mec de l'Ardèche, le thérapeute hyper calme, tu vois, ninja en Serwell, complètement allumé. Le voyage en Australie, les gens que je rencontre. Et j'ai accepté cette singularité de se dire, bah, je vais pas faire que du stand-up, je vais pas faire que du drame, je vais mixer tout et ça va prendre comme de la mayonnaise. Les 5 et 6 juillet prochains, et le 5 juillet, après le spectacle, on organise une summer party. C'est-à-dire que je me dis, des fois, après le spectacle, on a hyper envie de danser. On peut prendre sa place, en fait, en plus de sa place de spectacle. Moi, je serai là, on va faire la fête, il y a un DJ. Je me sens beaucoup plus connectée avec moi et donc j'ai eu une rupture encore l'année dernière qui m'a un peu encore fait mal quand même. Parce que j'étais au bout du processus de cette histoire de mariage, d'engagement à la manière de mes parents. En fait, j'avais rencontré quelqu'un qui était très engagé dans la relation, mais trop, parce que d'un coup la relation devient son objectif. Un peu comme ma mère qui était maman et c'était vraiment sa vie, c'était d'être maman, quoi. Et là, j'étouffe. Mais je sais pas comment le dire, parce qu'en fait, je me dis, c'est ça, en fait. Pour une fois que je tombe sur quelqu'un qui est engagé, qui me voit, j'ai l'impression qu'il me voit quand même aussi. Et ça a été trop intrusif. Si je devais positiver, ça m'a permis de, dans ma maison intérieure, d'avoir un jardin et de clôturer le jardin, de mettre des limites. Et j'ai vraiment, grâce à cette relation, pu apprendre ça. Je sens que ça m'a demandé de rebooter tout mon système. C'est-à-dire que là, en fait, on va plus pouvoir accueillir les gens très sombres, pas pouvoir essayer de sauver des gens. Donc, pour la première fois depuis longtemps, j'ai été très seule, incapable de... et pas dans l'envie de rencontrer. C'est-à-dire qu'à un moment, je me respecte complètement. Je m'estime beaucoup plus, en fait. Donc aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux avec moi. Et cette solitude m'a permis de laisser naître quelque chose que j'avais pas imaginé, c'est de se dire pourquoi je veux être avec quelqu'un. Et avant, je pense que c'était une comédie romantique et que c'était très flatteur, très dans l'ego de je lui plais, j'existe aux yeux de quelqu'un. Et en fait, je me dis, mais en fait, être avec quelqu'un, ça peut être génial. Je commence à me dire ça. Je me dis, mais en fait, là, tu crées. J'ai pris un chien. Putain, j'ai dit, ouais, bah, je suis mère célibataire, quoi. Là, il y a personne qui m'aide. J'ai pas envie d'une aide, d'une assistante de vie, mais j'ai envie d'être avec quelqu'un pour se dire, attends, toi t'as ça dans ta besace, moi j'ai ça, qu'est-ce qu'on peut créer? En fait, c'est très créatif. Et je le voyais pas avant. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans la création et c'est ça qui est génial, en fait. C'est ça qui fait durer, je pense. Mais j'étais pas du tout là-dedans, moi. Et puis, comme je dis toujours, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui rencontrent beaucoup de personnes sombres, enfin, moi, j'ai la sensation que quand j'ai ouvert la porte à ma propre ombre, en fait, ça a rééquilibré. Aujourd'hui, je suis ombre et lumière. Et donc, en face, je peux rencontrer un équilibre. Si je ne suis que lumière, forcément, je vais rencontrer de l'ombre. pour équilibrer, en fait. Et surtout, je m'emballe pas. Alors ça, pour le coup, j'ai arrêté. Je freine un peu des cas de fer, mais j'ai très très peur de m'emballer, de me raconter un film qui n'existe pas et que je me le prenne dans la gueule dans 6 mois. Donc j'y vais petit à petit. Je change ma carte mémoire, là, mon disque dur, et on verra. On verra ce que ça donne.
Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute et merci à The Braderie, notre sponsor. Pour rappel, avec le code promo X15, tu bénéficies de 15€ de réduction sur ta première commande des 60€ d'achat. Alors n'attends plus et télécharge l'application The Braderie.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.